Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Françoise que vous connaissez très certainement à travers sa page Facebook Astuces pour 10 avec déjà plus de 90 000 abonnés. Depuis plusieurs années, Françoise consacre sa vie à aider les parents, les enfants et les enseignants pour offrir un meilleur accompagnement aux enfants 10. Durant cet épisode, nous avons parlé de son diagnostic en 5e, de ses enfants et surtout de toutes les belles actions qu'elle entreprend pour offrir un suivi adapté aux enfants 10. Je ne vous en dis pas plus, ce témoignage était passionnant et je suis certaine que vous repartirez avec énormément de clés pour offrir un accompagnement encore plus adapté aux enfants 10. Bonjour Françoise.
Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie.
Bonjour Françoise.
Nous sommes très heureuses d'échanger à distance avec vous aujourd'hui pour parler des troubles 10 et de votre histoire. Alors depuis plusieurs années, vous délivrez des conseils autour des troubles 10 à des milliers de personnes sur votre page Facebook. Car en effet, vous êtes vous-même dyslexique et dysorthographique, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Et maman de deux enfants, dont un enfant dyspraxique et Asperger.
Oui.
Donc avant de parler de cette magnifique aventure qu'est la communauté Astuces pour 10, on aimerait que vous nous racontiez votre histoire. Et j'aimerais qu'on commence au tout début, notamment lorsque vous avez compris un jour que vous étiez dyslexique et dysorthographique. Donc, comment ça s'est passé et comment vous avez grandi avec ?
Alors, j'ai, entre guillemets, très mal grandi avec, puisqu'on m'a dépisté ma dyslexie en 5e. Donc, avant, la primaire a été excessivement chaotique. Les résultats scolaires ne suivaient pas, même si à l'oral, tout allait parfaitement, bien évidemment. À l'écrit, c'était une autre histoire. J'inventais des mots, j'oubliais des lettres. Quand je devais lire à voix haute, je lisais des mots qui n'existaient pas ou je mélangeais les syllabes d'un mot de la ligne du dessus avec le mot que j'étais censée lire. Donc ça pouvait donner des choses un peu épiques et salées aussi parfois. Mais en cinquième, on m'a emmenée voir une orthophoniste qui a dit que j'étais dyslexique. Mais à l'époque, alors je suis dans les années 70, hein, donc ça remonte un petit peu. On m'a dit que ça valait pas trop la peine de faire une rééducation parce que j'étais trop vieille. J'avais déjà pas mal compensé, on va dire, et il fallait que je me débrouille avec ça. Donc, c'était les notes négatives en dictée. J'ai jamais eu plus que zéro. Hein. Par contre, c'était toujours des moins quelque chose. Et ma copie servait d'exemple de tout ce qu'il fallait pas faire devant les camarades de classe. Enfin, c'était assez dramatique, on va dire, pour ce côté-là. Mais sinon, bon, j'ai vécu avec. Hein, on n'a pas le choix. Le bac, c'est pareil. Ça aura été moins 2 sur chacune de mes copies écrites, puisque le français n'était pas assez correct pour le niveau requis, on va dire.
Et comment vos parents et l'école se sont adaptés ?
Pas du tout. c'était pas. Oui, à l'époque, c'est terrible de dire ça. Mais à l'époque, c'était à peine connu ou reconnu, et puis il fallait se débrouiller. Et puis en fait, il s'avère que mon père est dyslexique aussi, donc il lisait aussi un peu des choses bizarres. Mais par contre, il avait une orthographe quasi parfaite. Donc bon, c'était pas choquant. Et puis après, c'était énormément de dictées à la maison, énormément de travail supplémentaire. Mais bon, mais ça n'a pas changé, hein. On m'a pas donné les stratégies pour justement compenser, apprendre avec comme maintenant l'orthographe illustrée pour mettre en avant les difficultés orthographiques d'un mot pour qu'on s'en souvienne. Je me suis trouvé des petits trucs mémotechniques personnels qui ne fonctionnent pas d'ailleurs avec mes enfants mais qui fonctionnaient avec moi. Donc comme quoi chacun a sa solution à ses 10 et à sa compensation. Mais oui, non, les professeurs n'ont rien adapté à l'époque. C'était comme ça. Par contre, quand je suis arrivée en Angleterre pour mes études supérieures, là, j'étais reconnue en tant qu'élève à besoins spécifiques. Ah, vous imaginez, donc dans les années 91-96. Et là, oui, j'avais, en Angleterre, mais pas en France, en Angleterre, j'ai reçu un petit autocollant à coller sur mes copies qui disait, en fait, à l'examinateur, lisez le fond, mais pas la forme.
Génial.
Oui.
Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Hein.
Oui.
Vous avez réussi votre bac en France avec des notes négatives?
J'ai eu mon bac avec 10 en philo, hein, c'est pas génial.
Ah, c'est bien.
Ouais, enfin j'ai eu mon bac mais sans mention, hein. J'ai juste eu mon bac, hein. Mais pas de rattrapage non plus. Donc d'un autre côté, après j'ai eu une immense chance. Je faisais de la musique en option, donc j'ai eu une excellente note puisque j'étais au conservatoire avant. J'avais pris sciences naturelles en option, c'était à l'oral, donc voilà, plein de points d'avance avec tout ce genre de matière où l'oral était important. Mais oui, les notes écrites ont plombé le score total. Mais oui, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac et j'ai fait des études supérieures. Et après mes études supérieures françaises, je suis partie en Angleterre faire un bachelor degree en art.
Génial. Et c'est là que vous avez eu une carrière autour du verre,
oui,
si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. À la base, je suis verrier. Maintenant, je suis maman à plein temps, mais à la base, j'étais verrier.
Vous avez fait ça pendant combien de temps?
Oh my God. Diplôme en 96, j'ai bossé jusqu'à la naissance de mon fils, on va dire, donc 2006.
Très bien. Et c'est à la naissance de votre fils que vous avez notamment lancé toutes vos initiatives pour parler plus des troubles 10?
Non, bien après. En fait, alors mon aîné est né en 2006 et ma petite est née en 2009. Quand ma fille est née, on a commencé à comprendre que notre fils était pas comme un autre enfant, on va dire, dans le sens où il n'arrivait pas à faire des choses qu'un enfant de 3 ans arrivait à faire. Parce que justement, la dyspraxie est beaucoup plus visible avant l'école, on va dire, que les autres troubles 10. Donc, il n'y a pas de coordination motrice, incapable de s'habiller, de mettre un manteau. S'il est en train de faire quelque chose qui lui demande beaucoup de concentration, on pouvait toujours parler. C'est comme si on disait rien, parce qu'il était concentré sur sa tâche, donc il n'était pas capable d'écouter ce qu'on lui disait. Donc, en fait, c'est aux 3 ans de ma fille que le CRTLA a posé le diagnostic de mon fils. Donc, aux 5-6 ans de mon fils, on a eu un diagnostic. Donc, assez tôt quand même. On a eu beaucoup de chance.
Et comment vous avez vécu ce diagnostic de votre fils?
Alors déjà, rien que le mot dyspraxie, c'était... Pardon? Dys quoi? Ça existe? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Pour une dyslexique dysorthographique, pardon, j'ai tapé. Pour une dyslexique dysorthographique, le mot dyspraxique, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, je ne savais pas quels étaient les tenants et les aboutissants. Je ne savais pas quels étaient les soucis de mon enfant et comment je pourrais y pallier. Et ça a été compliqué dans le sens où j'ai fait énormément de recherches et j'ai pas forcément toujours trouvé des réponses.
C'est pas facile parce que la dyspraxie, c'est pas très bien connu, c'est pas très bien expliqué, je trouve.
Non, c'est ça.
Même moi, en tant qu'enseignante, quand on me dit qu'un enfant est dyspraxique, c'est hyper difficile à comprendre, je trouve.
Bah, d'autant plus qu'il y a, alors on dit plus dyspraxique, hein, maintenant, trouble de la coordination motrice ou trouble de l'acquisition de la coordination, qui change à chaque fois avec le DSM, etc., les appellations. Mais il peut être visio-spatial ou il peut être orofacial ou il peut avoir un problème à ne pas comprendre les gestes à faire. Si vous lui faites, par exemple, en maternelle, les petites ritournelles d'un siphon, fonfon, etc., le gamin n'est pas capable de refaire la même chose que vous. Donc, ça a un impact à différents niveaux. Et le mien était dyspraxique sévère. Donc, il a quasiment toutes les dyspraxies en même temps. Donc c'était compliqué, ouais. C'était très compliqué de trouver des choses. Et puis, c'est un drôle de mot, en plus, dyspraxie. Donc, tu le décomposes, dys, le trouble, la praxie, le fait de prendre des choses. Ah oui, sauf que il est pas capable de comprendre une consigne qui est trop longue Pourtant, ça n'a rien à voir avec la praxie.
Ouais, c'est ça.
Puisqu'on prend rien, puisqu'on écoute. Oui, oui, donc ça a un impact sur beaucoup de niveaux. Et pourtant, il est toujours d'une intelligence assez remarquable et il a parlé très tôt avec un langage très soutenu. Mais d'un autre côté, il était incapable d'écrire, par exemple. Il était incapable de coller des gommettes. Il était incapable de chercher des pièces de puzzle, de comprendre la différence entre le bord et le centre. Des petites choses, parce que le visio-spatial intervient à ce niveau-là. Donc oui, dyspraxie, c'est hyper compliqué.
Ouais, moi j'ai eu un élève comme ça qui s'appelait Aristote, et c'était incroyable, parce qu'il était d'une intelligence extraordinaire, en plus en s'appelant Aristote, vous imaginez. Il avait un vocabulaire, mais tellement soutenu, et puis il n'arrivait pas à écrire, il n'arrivait pas à apprendre à lire. Et en plus, comme il était extrêmement intelligent, il en avait conscience, donc il y avait une souffrance.
C'est ça, c'est ça.
Et pour l'aider,
une frustration et après une violence. Parce que justement, tellement frustré que la violence s'installe.
Ouais.
Ouais, ouais.
Ouais. Et je trouve que c'est un des troubles les plus, quoi, c'est très, très compliqué, je trouve.
Je pense que la dysphasie doit être encore plus frustrante pour les enfants.
Vous pourriez réexpliquer ce que c'est que la dysphasie?
Alors, c'est un trouble du langage oral. Donc, soit il entend, enfin, il entend très bien, il n'y a pas de problème auditif, ORL, ni rien du tout, mais soit l'information reçue n'est pas comprise, soit c'est l'information qu'il essaye de transmettre qui n'est pas correcte. Donc, c'est dans les deux sens, hein, une dysphasie. Et je pense que pour un enfant, ça doit être encore plus frustrant parce qu'il ne se fait pas comprendre ou il ne comprend pas ce qu'on attend de lui.
Oui, c'est super dur.
Le dyspraxique, il peut s'exprimer, donc au moins il peut dire j'ai compris ce que tu veux, mais j'y arrive pas. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas si on peut comparer vraiment.
Non, je crois pas.
Non, c'est ça.
Donc, et tout puis, est
chacun le vit différemment. Oui, non, c'est compliqué.
Ouais.
Vous avez donc créé la communauté Astuces pour 10. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette communauté?
Alors, ben, l'exemple typique, c'est que nous, parents, quand un enfant, quel que soit son âge, arrive à faire quelque chose que tous les autres enfants font depuis des années, on est tellement content qu'on en arrive à faire des posts sur Facebook en disant « Yes, aujourd'hui, il a fait ses lacets, aujourd'hui, il a coupé son morceau de noix, il a réussi à ouvrir l'opercule d'un yaourt. » Et c'est des choses tellement basiques que les autres parents ne captent pas à quel point, pour nous, ça peut être une réussite phénoménale. Et il s'avère que sur Facebook, mon fils avait une appréhension de l'ordinateur et on savait que il passerait probablement le reste de sa vie à devoir travailler avec un ordinateur. Donc, on a essayé de le mettre avec l'ordinateur et puis des petits jeux. Et ça fonctionnait pas. Et la seule chose qui fonctionnait, c'était un jeu via Facebook. Donc, pour avancer dans ce jeu via Facebook, il fallait des amis virtuels. Donc, j'ai demandé en amis plein de personnes que je ne connaissais pas, ni d'elle, ni d'Adam. Et un jour, il y a une maman qui dit, écoute, à chaque fois que tu postes un truc, elle m'écrivait en privé, à chaque fois que tu postes un truc, j'ai l'impression de vivre ta vie avec mon propre enfant. Et à force, on a discuté toutes les deux et il s'avère que son enfant était aussi dyspraxique et qu'on se réjouissait pour les mêmes petites choses anodines l'une que l'autre. Et on s'est rendu compte qu'on avait cherché sur Internet plein de réponses et qu'on trouvait pas des astuces pour dire, ben tiens, quand il y a un problème avec un yaourt, tu peux utiliser une pince spéciale pour tenir le yaourt, comme ça il a sa main, l'autre main plus libre pour essayer, etc., etc. Et à force de s'échanger des petites astuces comme ça en message privé, on s'est dit toutes les deux, tiens, c'est bizarre, mais il n'y a pas cette réponse-là sur Internet. On n'a pas ces genres de réponses pratico-pratiques, on va dire. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, on va la faire, nous, cette page, et puis on va faire ces réponses pour les mamans. Et c'est comme ça que j'ai créé Astuces pour 10.
Génial.
Ah, c'est super.
C'est la naissance d'Astuces pour 10, pour des posts sur des lacets ou des règles ou des compas ou des choses comme ça. Ouais, j'ai trouvé le machin qui fonctionne pour qu'il puisse faire un cercle. Enfin, c'est une anecdote ridicule, mais c'est en fait c'est la naissance de la page est née de ça. Et maintenant, on est à plus de 98 000 personnes qui la suivent, donc c'est une vraie réponse à un manque en fait de choses pratiques, on va dire, pour les parents et les enseignants. Et c'est vachement bien. Je suis contente que ça réussisse si bien.
Ouais, c'est génial. Et en plus, ça s'adresse à tous les troubles 10.
C'est ça. J'essaye. Mais encore, la dysphasie est une des vaches maigres, on va dire. Il n'y a pas énormément de choses, d'astuces que je peux proposer pour les dysphasiques. À part Macathon, par exemple, et puis des séances d'orthophonie à gogo, je ne sais pas trop quoi, comment les aider.
Ouais. Et vous avez depuis créé une association.
C'est ça. J'ai eu la chance d'avoir le Rotary de Beach hein, qui a choisi en fait Astuces pour 10 pour association de l'année. Et je finance des mallettes pédagogiques. Ça, c'est un autre à côté de l'association maintenant. Donc, le Rotary a financé 10 mallettes pédagogiques pour les écoles primaires locales. et 3 pour les collèges. Donc, on a donné énormément de matériel aux écoles. Il y a aussi un fonds qui a été créé, mais bon, pas avec le Rotary, mais la communauté de communes a créé un fonds de livres à la médiathèque. Donc, on travaille aussi avec la médiathèque pour faciliter la lecture à tous les enfants et l'accès à la lecture avec tous les différents livres adaptés qui existent. Donc, c'est chouette.
Ah, c'est super.
Ouais, ça bouge pas mal. Localement, hein, et, ça bouge.
Et c'est quoi la mallette pédagogique?
Alors, en fait, avec chaque... le côté personnel que je fais, moi, quand je finance une mallette, c'est qu'avec chaque enseignant avec qui j'échange souvent en message privé avec Facebook, c'est donc des enseignants qui suivent la page, on construit une mallette en fonction des besoins et de ce qu'ils ont déjà dans leur école.
Ah oui, c'est bien.
Donc, c'est des mallettes personnalisées, on va dire. C'est pas un pack où tu appuies sur un bouton et puis tu as tout dedans, ce que tu veux. C'est avec l'enseignant, on essaye de trouver du multimalin pour les tables de multiplication ou les coffrets des cartes mentales, parce qu'il y a certains enfants où ça marche vachement bien avec des cartes mentales, des guides doigts pour, quand ils ont justement des problèmes de praxie et de placer leur stylo, etc. Enfin, leur main sur leur stylo, évidemment. Des jeux de cartes pour apprendre des conjugaisons ou justement l'orthographe illustrée avec orthoédition ou le dictionnaire Larousse, etc. Donc, on essaye vraiment de construire avec avec l'enseignant toutes les petites aides, on va dire, qu'on peut acheter, malheureusement, c'est le côté mercantile, mais bon, toutes les petites aides matérielles pour leurs élèves. La règle loupe m'appelle, par exemple, quand un enfant a un livre scolaire et qu'il a du mal à lire dedans, ça souligne, il y a une petite ligne rouge à l'intérieur de cette règle loupe, donc ça souligne la ligne qu'il doit lire, et la loupe agrandit le texte. Donc, si le texte n'est pas adapté sur le support, et ben c'est une espèce de petit subterfuge qu'on a trouvé et qui fonctionne bien. Ça agrandit en fait la police de caractère. Évidemment, rien ne remplace un livre numérique qui sera agrandi et puis avec au pire les syllabes colorées, etc. Mais pour pallier à quelque chose dans le moment M, cette règle elle marche très très bien. Ou des overlays par exemple pour modifier la couleur.
C'est ça qui est incroyable avec ce que vous proposez, c'est que c'est très pratique pour le mettre en place à la fois à l'école et à la maison.
C'est ça, c'est ça. Et l'enseignant, donc, il a cette mallette et l'élève essaye avec ça. Et après, le professeur peut dire aux parents, ben, on a essayé ça fonctionne super bien avec lui, je vous suggère de faire la même chose à la maison. Et puis, il trouve tout sur Internet. En fait, en Belgique, il y a une vraie boutique physique spécialisée où on peut aller, mais en France, je connais pas une vraie boutique où on peut trouver ça. Donc, on passe malheureusement plus par Internet pour acheter ça. Mais oui, c'est des choses vraiment pratico-pratiques. C'est le côté astuce d'aide.
Nous, on a les catalogues comme Hop Toys, non?
C'est ça, c'est ça. Hop Toys, Hugo 10, Gay Savoir, voilà. En Belgique, etc.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et c'est super. Alors, donc, l'enseignant, il vous écrit et il vous explique le problème. Et en fonction de ça, et de ce qu'il a dans la classe, vous lui suggérez un certain nombre d'outils.
C'est ça. J'ai beaucoup d'enseignants qui me parlent. C'est pour ça que j'ai choisi Facebook, déjà, pour faire une page et pas un blog. Parce que Facebook, ça a le côté rapide.
Oui.
L'enseignant ou le parent pose une question. Instinctivement, tu as un ding qui te dit, tu as un message. Et tu réponds quand tu peux, évidemment. Mais tu as un côté rapidité immédiat qui est vachement important. Surtout que le parent, quand il est en train de faire les devoirs avec son gamin et que ça bloque, il est super content d'avoir une réponse immédiate. Donc c'est pour ça que j'avais fait la page sur Facebook. Et oui, donc les enseignants m'écrivent souvent en message privé. On a des échanges très longs. Hein. Parfois ça met plus d'un an avant de pouvoir financer une mallette. Je la finance grâce à par exemple au livre que j'ai fait avec Atier. Donc les droits d'auteur sont reversés à mon association, mais je la finance aussi quand les gens commandent avec des espèces de liens d'affiliés sur Acquies ou Multimalin. Donc je reçois des sous, on va dire, de ces entreprises là et je le remets en fait dans des mallettes.
C'est génial.
C'est bien. Vous devez recevoir beaucoup de messages sur Facebook.
Oui. Oh oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai déconnecté Facebook, là, sinon ça ferait ding-ding tout le temps. Mais oui, mais c'est bien. C'est bien. Et puis après, moi, je travaille plus maintenant. Donc, c'est aussi... j'apporte une réponse aux gens, mais en même temps, j'ai l'impression de servir à quelque chose.
Ah ouais.
Quand tu travailles plus, t'as plus de statut, on va dire. T'as même plus de numéro de sécu, tu dépends de ton mari, hein, déjà. Donc, ça vous prouve à quel point, ouais, c'est un peu compliqué pour une femme quand elle décide d'arrêter de travailler pour ses enfants. Elle n'existe plus, entre guillemets, presque. Hein. Donc, c'est aussi un moyen pour moi d'avoir trouvé une utilité dans ma vie quotidienne.
Et vous arrivez à répondre à tout le monde toute seule?
Oui.
Oh là.
Oui, oui. Oui, oui.
Je voulais justement que vous nous racontiez comment vous vous organisez à la maison.
Alors, pourquoi exactement ?
Par rapport justement au trouble 10 de votre fils, et j'aimerais que vous partagiez à nos auditeurs, aux deux, voilà, comment vous arrivez à vous adapter à eux au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui changent, qu'il est important de savoir ?
Alors, j'ai la chance d'avoir 3 ans de différence entre mon aîné et ma seconde. Donc, quand on a eu fini d'aider mon fils avant qu'il ne rentre au collège, eh ben je me suis dirigée vers l'aide pour ma fille. J'ai eu cette chance d'avoir eu le diagnostic précoce, on va dire, pour Olivier. Donc, d'avoir eu énormément de thérapies, psychomotes, ergothérapeutes, psy, hein, le psy, c'est vachement important, orthoptiste, kiné, orthophoniste, bien évidemment. Et une fois que tout ça, ça a été bien mis en place, mon fils a eu une autonomie. Et à partir de sa 6e, il ne demande plus d'aide, on va dire, pour les devoirs, etc. Donc, j'ai pu après me concentrer sur ma fille, où, comme elle avait 3 ans de moins, on a vu qu'elle avait les mêmes troubles que son frère, enfin, des troubles, mais pas les mêmes, elle n'est pas dyspraxique, elle. Et donc, j'ai pu me concentrer sur ma fille. Mais alors, comment ça s'organise? Eh ben, on reprenait les cours. Pour Olivier, j'ai toujours écrit à sa place le soir. J'étais sa secrétaire. J'utilisais les lettres du Scrabble quand il avait, enfin, du Scrabble ou d'autres choses, hein, voilà. Quand il avait une dictée ou des mots à apprendre, comme ça, il n'avait pas besoin d'écrire. Il bougeait les lettres sur la table. Comme ça, ça évite une fatigue supplémentaire. Il a une mémoire excellente, mais d'un autre côté, il fallait que ça se percute. Donc, avec lui, on inventait des illustrations pour des mots compliqués à apprendre. Comme par exemple, c'est un mot que, on va dire, c'est pas un mot courant, mais c'est un mot qu'il avait dicté en CM2. C'était le mot Dahlia. Je l'ai appris en même temps que lui, on va dire. Dahlia, hein. Parce que je lui ai dit, ben, le jardinier donne un coup de hache au milieu de la syllabe du mot Dahlia pour couper ses fleurs. Hein. Et ça a une image qui l'a percuté. Et je pense que jusqu'à ses 100 ans, s'il vit jusqu'à là, il écrira D-A-H-L-I-A parce qu'il se souviendra toujours de cette illustration. Là, on a fait un petit dessin avec un bonhomme, une fleur et un coup de hache. Mais ça percute. Ça lui a permis de retenir, on va dire, la difficulté orthographique. Ça, c'est une orthophoniste, Sylviane Valdois, qui a mis ça en place. Et elle en a fait des livres et puis elle partage ça avec les orthophonistes. Mon orthophoniste m'a montré que ça existait et m'a dit maintenant tu fais ça avec ton enfant et ça a marché.
C'est génial. Oui. Parce que ce que je vois aussi beaucoup sur votre page Facebook, c'est que vous donnez beaucoup d'astuces autour de la mémoire visuelle.
Oui. Ou kinesthésique. Faut toucher. Il y a certains enfants qu'il faut toucher, tripoter, faire les lettres avec le scrap, c'est que tu les vois mais tu les touches en même temps. Faut faire travailler toutes ces sphères de mémoire. Alors après, il y en a qui vont dire, c'est un mythe, ça n'existe pas, des intelligences différentes, etc., etc. Chacun croit ce qu'il veut. Mais quoi qu'il en soit, ça marche avec les enfants.
Et puis vous le vivez, vous l'avez vécu, donc vous voyez bien, ça marche.
Ben oui, oui. Et après, c'est pas une vérité prouvée, scientifique et tout ce qu'on veut, etc. Mais en tout cas, moi, ça a marché avec les miens. Donc ça peut marcher avec... Par contre, alors c'est ce que je dis toujours, ce qui marche avec l'un ne marche pas forcément avec l'autre. Je vois par rapport aux tables de multiplication, mon fils a tout appris grâce aux multimalins. Sans multimalins, je crois qu'il aurait jamais réussi à les connaître. Ma fille, elle était hermétique aux multimalins. Pour elle, ça lui parlait pas du tout.
Vous pourriez réexpliquer ce que c'est le multimalin ?
En fait, c'est des images mentales. Il raconte une histoire sur chaque table de multiplication. Donc l'enfant se raconte une histoire, il s'en souvient grâce à ça. Et comme il y a en plus des supports vidéo pour voir les petites le petit film, il y a un support papier où il peut colorier, répondre aux questions, etc., revoir. Il y a des jeux de cartes, donc l'enfant, il est baigné là-dedans et ça rentre. Alors avec Olivier, ça a rentré pour un dyspraxique. Hein. En général, on leur dit, bah, donnez-leur une calculatrice et ils se débrouilleront. Ben là, ça a fonctionné. Après, je dis pas que c'est la solution miracle, hein, parce que ça dépend de chaque enfant.
Non, mais ce qui est bien, c'est que vous donnez des trucs pour essayer en fonction de chaque...
Mais en tout cas, pour le mien, ça a fonctionné.
Voilà, les parents, ils peuvent essayer, les profs peuvent essayer. Il y a forcément quelque chose qui marche.
C'est ça. Il y a des mandalas aussi pour les multiplications. Il y a des enfants qui ont besoin de dessiner. Alors, le dyspraxique, dessiner, ça ne sera pas son truc. Hein, donc, forcément, ce n'est pas ce qu'on va conseiller. Mais alors, justement, sur la page, j'ai fabriqué un album qui s'appelle Multiplication. Et dedans, je mets tout ce qui concerne les multiplications. Comme ça, les parents peuvent aller regarder les différents sites. Il y a des multiplications en chantant. Voilà, je ne dis pas si cette méthode n'est pas une autre. Hein, au contraire. Je dis, voilà ce qui existe, maintenant tu pioches dedans, tu vois ce qui marche, et puis en fonction, tu achètes ou pas. Après, je force personne à acheter, hein, bien sûr, mais tu essayes, et puis si ça fonctionne, eh ben, tant mieux, et puis si ça fonctionne pas, ben, t'en essayes une autre.
Ouais, c'est ça.
Et après, à la limite, si ça fonctionnera jamais, eh ben, ça sera peut-être un dyscalculique, et puis ton gamin, il prendra une calculatrice, et puis c'est pas grave en soi, c'est pas une finalité d'apprendre ses tables.
Ça, je suis d'accord avec vous. Hein.
Voilà.
Ouais, il y a un moment, voilà.
C'est ça, de toute façon, arrivé au collège, ils n'ont plus de calculs mentaux pareils.
Quand on est adulte, on prend tout le temps la calculette. Il y a la majorité des adultes ne savent pas faire une division. Hein, donc,
Ouais, bon, ça va, j'ai la chance, je m'en souviens encore. Peut-être parce que je fais encore les devoirs avec mes enfants. Mais,
Ouais, c'est ça.
Non, ben là, mon fils avait un exercice sur les fonctions. Lui, il n'avait pas compris les fonctions. Ça va, j'ai encore des beaux restes de ma première S, mais j'ai pu lui réexpliquer. Bon, c'était chouette. Les fractions, moi, j'adore les fractions. Hein, c'était mon truc préféré en maths. Pour lui, c'est complètement abscon. Il comprend rien. Enfin, c'est et puis découvrir les fractions en troisième, c'est tard, je trouve. Mais bon.
Ah ouais.
Bah, on faisait des mises sur numérateur commun, etc. En CM2, nous à l'époque, hein, donc. Hein, on les additionnait, on les multipliait, on faisait tout. Maintenant, ça a changé. Donc ouais, non. J'ai encore des, entre guillemets, beaux restes. Pas en français, par contre.
Comment est-ce que vous communiquez avec vos enfants autour de ces troubles cognitifs?
Alors, on parle. On cache rien. Rien n'est tabou. Hein, on en discute. De toute façon, ils me connaissent. Hein. Ils entendent mes bourdes, hein, parce que je lis encore à voix haute n'importe quoi. Quand je parle trop vite, c'est pareil, ça fourche et ça veut rien dire. Ça nous permet d'ailleurs d'avoir des beaux fous rires quand je dis des choses absolument indicibles, si on peut dire. Mais ouais, non, on en parle. Hein, et puis j'essaye toujours de leur faire comprendre que oui, ça, c'est une lacune. Hein, on n'y arrive pas, mais on arrive d'autres choses. Donc c'est notre force. Elle est ailleurs. J'essaye toujours de positiver. Hein, moi, le verre est toujours à moitié plein. Ça vaut pas la peine de voir toujours le pire. Puis, de toute façon, ils ont vu que son père ou moi, enfin, leur père et moi, on est épanouis malgré nos 10 et on vit avec. Hein, donc, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas.
Et comment vous arrivez à développer leur confiance en eux?
Alors déjà, forcément, comme tous les parents, on a fait des bêtises avant d'avoir les diagnostics. On essaye toujours de valoriser ce qui est acquis. On ne va pas dire, t'imagines, t'as eu une faute, t'as pas réussi ça, ben, c'est pas grave. T'as tout le reste de juste, t'as une faute, quoi. On s'en fout. On s'en moque, excusez-moi pour le gros mot. On essaye vraiment de valoriser le côté positif, de ne pas les dénigrer, et puis, pas gronder, parce que ça sert à rien, de toute façon. On voit bien les efforts. On encourage les efforts. Il a pas réussi, mais il a fait tout ce qu'il a pu pour réussir. Donc, c'est l'essentiel. C'est très important. Après, j'ai la chance, j'ai deux enfants qui travaillent énormément et qui mettent du leur. Et donc, pour ce côté-là, j'ai beaucoup de chance, on va dire. Là, je vois ma fille, elle est en sixième. Alors, je suis pas du tout germanophone. J'ai jamais appris l'allemand. J'habite dans l'Est, hein, mais j'ai ni appris l'allemand ni le patois local. Mon mari, c'est pareil. Et ma fille, étant dyslexique, elle a beaucoup de mal avec l'orthographe. Et surtout qu'elle apprend, on va dire, les mêmes choses en anglais et en allemand, parce que dans notre région, ils font bilingue dès la sixième. Donc, ils ont les deux langues tout de suite. Et elle a confondu la maman en allemand et en anglais. Donc, plutôt que d'écrire mother, mutter, elle a écrit moteur. Hein, parce que c'était le O de Mona. Et elle me dit, mais le pire, c'est que je le sais. Mais je dis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, tu as su quelle était ta faute. Donc, c'est pas grave. Puis, on a de la chance parce qu'il y a plein de choses maintenant. Quizlet, je sais pas si vous connaissez ce site internet. Quizlet permet d'apprendre des listes de mots de vocabulaire qu'on rentre soi-même ou qu'on utilise des choses qui ont été faites par les autres, mais il faut mieux les rentrer soi-même pour être sûr que l'orthographe qu'on met est la bonne. Parce que quand ça a été fait par quelqu'un d'autre, parfois il y a des fautes. Mais ça vous permet d'apprendre les mots de vocabulaire. L'enfant peut s'auto-interroger, il fait des auto-tests, il écoute le son, parce que moi je pourrais pas lui dire comment on dit moteur, à part le moteur que je sais comment on dit. Mais si vous me demandez de lire de l'allemand, je pense que vous penserez que je parle comme une vache espagnole, ce qui est tout à fait logique, puisque je sais même pas comment ça se prononce. Mais donc au moins l'ordinateur, il va lire avec, entre guillemets, un accent à peu près correct, comparé au mien, et donc elle peut apprendre comme ça ses listes de mots et elle peut s'auto-interroger et c'est vachement agréable quand elle voit les pourcentages augmenter de comment la leçon est rentrée dans sa tête. C'est super. On a des outils qui n'existaient pas quand j'étais jeune. Tout ça, c'est génial pour les enfants. Donc ça fait partie des choses que je partage.
Et justement, je me demandais, selon vous, enfin, que pensez-vous des dispositifs d'aide mis à disposition actuellement des parents pour accompagner les enfants 10? Est-ce que vous trouvez qu'on a du progrès encore à faire? Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant?
Vous parlez des PAP ou des PPS ou vous parlez des aides comme les Quizlet et ces choses comme ça?
En règle générale, est-ce que vous trouvez qu'un parent, lorsqu'il apprend que son enfant est 10, est-ce qu'il est suffisamment accompagné?
Non. Non, ça, je pense que... Alors, les associations, on a de la chance. On a pas mal d'associations, hein, Dyspraxique mais Fantastique, par exemple, des MF, où vous avez la Fédération des 10, etc. Donc, il y a quand même... Ou AP10, etc. Donc, il y a quand même des associations qui sont là pour aider. Mais non, quand on donne... Alors, effectivement, notre neuropédiatre ou les centres référents des troubles de l'apprentissage nous donnent des clés quand même. Hein, ils nous larguent pas comme ça dans la nature. Mais non, on n'est pas assez accompagnés. Il faut dire les choses comme elles sont, pas du tout. Et les enseignants non plus sont pas assez accompagnés, on leur donne pas les moyens. Quand je vous dis les mallettes, là, je trouve que les ministres devraient fournir ça à tous ces enseignants.
Bien sûr.
Ça, c'est... Non, pas assez. Et dans d'autres pays, c'est mieux fait, je pense.
Ouais, même les parents, ils sont pas très aidés quand même.
Non, ils cherchent par eux-mêmes. Ils cherchent par eux-mêmes dans les assos ou Facebook. Hein. Facebook, ça a été... Enfin, avant, c'était des blogs, on va dire, ou c'était des forums, pardon, je cherchais le mot forum sur Internet. Maintenant, les forums, ils ont un peu disparu au profit des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux sont des grandes sources d'informations pour les parents. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Sans ça, on serait perdu, puis on est tout seul. Enfin, moi, je vis dans un village, on est 500, y a rien aux alentours. Hein.
Je trouve que sur les blogs ou sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Donc on sait pas, c'est pas toujours sérieux quoi. Tout n'est pas sérieux. C'est ça qui est difficile aussi pour eux de faire le tri.
C'est ça. Ça, je suis d'accord. Il y a des réponses qui sont données qui sont erronées.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ?
En parler beaucoup plus. À part le jour des 10, hein, le 10 octobre où il y a un petit peu de reportage là-dessus, on parle pas beaucoup des 10 hein, dans des troubles 10 en général, du TDAH encore moins. On n'en parle pas assez. C'est comme le mot dyspraxie. Enfin, quand on m'a donné le diagnostic de mon fils, dyspraxie, je l'avais jamais entendu de ma vie avant. Et il y a des gens avec qui on discute qui connaissent pas ce mot-là, qui savent pas ce que ça veut dire. Si vous faites une radio trottoir dans la rue et vous demandez à quelqu'un que veut dire dyspraxie, je sais pas si beaucoup de personnes seront capables de vous répondre.
Bah ouais. Et même sur le diagnostic, vous trouvez qu'il y a suffisamment de sensibilisation ?
Non. Et puis c'est très long. C'est très long entre le moment où enfin on dit aux parents « Oui, effectivement, maintenant il y a un problème, il y a les fameux 2 ans d'écart type dont on parlait avant l'enregistrement. » Il faut ces 2 ans d'écart type. Et ça, c'est terrible parce que les orthophonistes perdent un temps fou. Arrivé en CE2, on commence à faire les démarches pour avoir des diagnostics, sauf que maintenant, il y a quasiment 18 mois d'attente, hein, on va dire que la Covid n'arrange rien. Et ensuite, pour les prises en charge, enfin l'enfant perd un temps fou, le thérapeute perd un temps fou, et donc le parent perd un temps fou, tout le monde perd un temps fou.
Comment ça s'explique qu'il y ait ces 2 ans d'écart type ?
Alors ça, j'en suis pas capable. Je sais pas pourquoi il faut absolument qu'il y ait le 2 ans d'écart type. Après, ils estiment que l'enfant peut réussir à pallier à ce manque de savoir lire ou de savoir écrire ou de savoir compter. Mais en fait, compte, pour un 10, non, ce manque, il sera jamais rattrapé. C'est pas un retard d'apprentissage dans le sens où c'est un manque de travail. Il a un trouble. C'est pas un manque de travail. En fait, compte, ils associent trop les deux choses-là. Et on nous permet pas de pouvoir faire un bilan plus tôt. C'est comme un enfant qui parle pas. Souvent, il arrivera que un médecin dira non, pas besoin encore de faire un bilan orthophonique. Ça viendra quand il rentrera à l'école. Ben non, c'est peut-être dommage si notre gamin il a un vrai trouble du langage. C'est pas un retard, c'est un trouble. C'est une petite nuance, mais c'est une nuance qui est hyper importante. Et plus tôt l'orthophoniste pourra intervenir avec ce genre d'enfant, plus tôt elle pourra l'aider.
Ouais, c'est sûr. Et en même temps, c'est aussi une vraie galère pour les parents de devoir jongler avec autant de rendez-vous, je suppose.
Oh oui. Alors on a un véritable organisateur planning. Vous avez pu voir la photo du mien où on jongle. Alors à l'époque, quand mon fils avait ses thérapies énormément, on avait la semaine père, la semaine impair. Pour séparer, pour qu'il puisse souffler quand même, parce que tu ne peux pas avoir 6 ou 7 prises en charge dans la même semaine. L'enfant, il sature.
Oh là là, ouais.
Et si l'enfant n'est pas capable de prendre, on va dire, le côté positif de la thérapie, mais de la subir, il est fatigué, ça ne sert à rien. Ça, tout le monde perd son temps, et le thérapeute, et l'enfant, et puis le parent qui l'emmène. Donc il vaut mieux séparer les thérapies et les espacer pour qu'elles soient efficaces. Mais oui, on avait semaine paire, semaine impaire, vacances où on rajoutait. Après, nous, comme on est, comme je vous ai dit, au plein milieu de la forêt, eh ben, on se tape 1h30 de route pour aller à un rendez-vous. Donc, un rendez-vous qui donne 1 demi-heure, plus 1 demi-heure de route pour revenir. Sauf que quand on repart, on tombe dans les embouteillages des départs de tout le monde du travail. Donc, on met 2 heures à rentrer le soir. Donc, oui, tu passes l'après-midi entière, avec ton enfant. Ah oui, c'est long. En plus, c'est compliqué. C'est toute une organisation. Donc, en même temps, quand t'as la chance d'être encore marié ou en couple et d'avoir les deux parents à la maison, donc t'en as un qui peut s'occuper d'un enfant. Pendant ce temps, t'as l'autre qui s'occupe de l'autre enfant et qui le trimballe partout. Mais sinon, ouais, c'est hyper compliqué quand t'es un parent solo. C'est encore plus difficile à gérer, on va dire. Moi, j'ai cette chance.
Ou les deux parents qui travaillent.
Eh ben, j'ai arrêté de travailler. C'est ça. J'ai pris mon congé de maternité pour mon fils aîné, et après j'ai pris mon congé de maternité pour ma deuxième, puis après j'ai jamais repris mon travail. J'ai arrêté. À partir du moment où j'ai eu le diagnostic de mon fils, c'était bon, je savais ce qui allait m'attendre. Donc je ne travaille plus. Bon, après maintenant, j'ai un souci physique qui fait que de toute façon je pourrais plus retravailler, mais je ne travaille plus. J'ai pris cette décision-là, c'est un choix en fait. Ça fait 16 ans qu'on est mariés, à part notre voyage de noces, on n'est jamais parti en vacances. Notre choix s'est porté sur les thérapies de nos enfants qui ne sont pas toutes remboursées, sur les kilomètres qui ne sont pas remboursés. Voilà, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est une réalité quand même qui est très dure quand on se rend compte tout ce que vous devez endurer. Et c'est vrai qu'on aimerait que vous soyez tellement mieux accompagnés, je pense même aux enseignants, comme vous l'évoquiez.
Ben, c'est ça.
Comment ça se passe pour les enseignants, pour qu'ils s'adaptent? Comment ça se passe à l'heure actuelle?
Mais j'ai même un enseignant qui me dit, j'ai dans ma classe deux élèves qui ont des AVS et parfois il n'y a pas assez de chaises pour qu'on puisse s'asseoir. Vous imaginez, hein, c'est quand même phénoménal qu'on arrive encore au 21e siècle, dans notre pays qui est 110 ans développé, des profs qui n'ont pas assez de chaises dans leur salle de cours ou de table dans leur salle de cours. Alors vous imaginez qu'ils aient du matériel, ça serait encore la panacée.
Bah, ouais, ouais.
Et ils sont pas assez accompagnés, ils sont pas ils sont formés, mais ils sont pas assez informés sur tout ce qui est trouble, hein. Ils ont quoi dans leur SP, ils doivent avoir 2 heures de cours sur tous les handicaps mélangés, ou peut-être 2 journées de cours sur tous les handicaps mélangés, mais c'est pas assez. Enfin, faut dire les choses, c'est pas assez. Et puis justement, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui existent, qui n'existaient pas avant. Il y a des nouveautés qui sortent tous les jours, et ils sont pas prévenus de ces nouveautés-là. Dans leur catalogue scolaire, c'est rare que dans des écoles, on va dire dites normales, il y a un catalogue Optos qui traîne. Hein, en général, ils ont leur catalogue de matériel.
Il y a un problème général de formation des enseignants, de toute façon.
Non, mais c'est pour ça que votre travail est précieux, parce que vous permettez à la fois aux parents et aux enseignants.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et on arrive déjà à la fin de cet entretien, mais je vais vous poser une petite dernière question. Est-ce que vous pourriez nous partager les prochains projets sur lesquels vous allez travailler avec Astuces pour 10, s'il y a des nouveautés intéressantes pour les parents ou les enseignants qui nous écoutent, pour qu'ils continuent à suivre vos belles aventures?
Alors, lundi, j'ai fait un café 10, mais un tout petit café 10 où on était moins de 6, hein, parce qu'on peut plus. Pour l'instant, tout est arrêté. Mais je fais des ludodistes d'habitude les samedis après-midi, une fois de temps en temps, avec les enfants du coin, pour que tous les 10 se retrouvent ensemble et jouent avec tous ces jeux qui sont des jeux entre guillemets éducatifs, qui leur permettent, comme par exemple le jeu de lynx, hein, de faire travailler leur balayage visuel, ou des jeux de préhension, de jouer avec des Legos, etc. Donc je fais des ludodistes. J'organisais, on va dire, des journées de mise en situation de 10. Là, normalement, si tout va bien, je devrais partir en mai à Orléans pour dans une médiathèque pour parler justement des 10 et puis de l'accès aux livres, etc. Dans les médiathèques locales, les bibliothèques locales, donc ça fait un an qu'on a un projet d'animation et pour l'instant, ben, on peut pas les faire, mais vous voyez, il y a 9 interventions qui sont prévues dans 3 sites, hein. Donc ils ont créé le fonds 10, hein, justement dernièrement. Donc c'est vachement bien parce que ça fait bouger aussi les choses un peu localement. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je suis intervenue dans des collèges déjà, donc ça c'était super chouette. Une journée entière dans un collège à Sa Réunion où le proviseur fait une journée sur le handicap en général avec toutes ses classes de 6e. Donc elles passent dans différents ateliers et puis ils deviennent 10 pendant 1 heure. Tous les élèves de 6e deviennent 10 pendant 1 heure. Donc pour mieux comprendre leurs camarades de classe, pourquoi ils ont un ordinateur ou pourquoi ils ont une AESH. Et ça les marque, hein, parce que je l'ai déjà fait. Et après, j'avais fait avec le centre socio-culturel de Sa Réunion, différentes réunions avec des parents. Et il y avait un enfant qui avait dit, il y avait une dame qui était venue dans notre classe, c'était chouette et tout. J'ai dit, bah c'était moi. Mais bon, il ne se souvenait pas de la dame, mais il se souvenait de tout ce qu'il avait fait. Donc ça les marque, hein, quand même, donc c'est vachement bien.
Ouais, c'est super. Bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, moi, j'invite tout le monde à se procurer votre livre que moi-même j'ai acheté, L'enfant 10.
Ah, c'est gentil.
Aux éditions Hatier. C'est une mine d'or. Et encore une fois, je pense que vous avez une approche qui est très juste, celle de donner vraiment des clés concrètes et pratiques pour savoir accompagner ces enfants. Donc, merci pour votre temps. C'était super d'échanger avec vous. Et bravo encore pour tout ce que vous faites.
Je vous en prie.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.